Vous savez, nous héritons d'une église où les premiers missionnaires n'étaient pas forcément financièrement dépourvus. Ils recevaient beaucoup de choses de leurs parents, de leurs relations d'ici. Et en plus, ils étaient généreux, ce qui est une très bonne chose. Mais nous héritons de cette situation sans avoir les mêmes moyens qu'eux. Nous avons plein de gens qui frappent à nos portes parce qu'ils sont malades, ils doivent aller à l'hôpital. Et pour eux, il est tout à fait naturel que ce soit le missionnaire qui leur paye, n'est-ce pas, les frais d'hôpitaux, les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école et qui viennent tout naturellement, parce qu'autrefois, les missionnaires, n'est-ce pas, aidaient les gens à aller à l'école, donc nous héritons de tout cela. Et c'est la gestion de tous ces problèmes que nous mettons, n'est-ce pas, dans l'appellation Caritas, qui évidemment demande aussi des moyens, bien sûr.
Vous parliez à l'instant de la scolarisation des enfants. Est-ce que c'est un problème au Cameroun?
Oui, évidemment, c'est un problème. C'est un problème, pas tant parce qu'il manquait de structures pour le faire. Les structures existent, il y en a même trop, à mon avis. L'État en crée pas toujours par rapport aux besoins, mais il y a toute une conception politique derrière qui fait que parfois les écoles se marchent les unes sur les pieds des autres. Donc, au niveau des structures, on en a. Bon, maintenant, ces écoles ne sont pas gratuites. Donc, il y a toujours un minimum financier qu'il faut investir dans une situation où les gens n'ont pas ces finances-là. Donc, le problème devient évident par lui-même. Il y a ce problème de finances. Alors, un autre problème, c'est que le personnel formé pour former n'est pas toujours disponible pour aller travailler dans des zones enclavées. Du coup, si dans les zones, on va dire, urbaines, le problème de la qualité des enseignements ne se pose pas en tant que tel, il se pose dans les zones enclavées où les gens ne sont pas disposés à aller vivre dans des villages où ils n'ont pas de l'eau potable, où ils n'ont pas d'électricité, et donc ils préfèrent rester en ville. Et du coup, ça pose le problème de la qualité, n'est-ce pas, des enseignements en zone rurale. Donc, notre mission consiste à combler un peu ces défaillances. Nous, nous créons des écoles dans ces zones enclavées et nous essayons d'envoyer des enseignants catholiques qui, au nom de l'Évangile, sont capables, n'est-ce pas, de taire leurs propres aises pour se donner, n'est-ce pas, pour le bien de ces personnes-là. Et je crois que de ce point de vue, nous apportons beaucoup. Reste que ces maîtres qui vont dans ces zones-là, ces maîtres catholiques, j'entends, ont besoin d'un salaire. Et le salaire vient, n'est-ce pas, des scolarités qui sont payées. Et ces scolarités ne peuvent pas être payées. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi.
C'est ce qu'on appelle un peu un cercle vicieux.
Voilà, c'est un peu un cercle vicieux. Mais nous n'avons pas l'intention d'arrêter. Il s'agit des choses importantes. Les choses importantes doivent être maintenues. Maintenant, il faut trouver, je parlais tout à l'heure de la solidarité, la communion dans l'aide ecclésiale, mais aussi la solidarité de toutes les personnes de bonne volonté qui, de par le monde, n'est-ce pas, peuvent nous aider à aider.
Est-ce qu'on peut dire qu'au Cameroun, l'État est de bonne volonté? Vous évoquiez tout à l'heure la problématique des écoles qui se marchaient dessus et de l'agenda un peu politique de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez?
De la bonne volonté de l'État. Oui, l'État essaye de faire son travail. Ce n'est pas toujours facile. Je ne suis pas de ceux qui critiquent très vite. Quand on est aux affaires, on comprend qu'il n'est pas toujours aisé de réaliser un certain nombre de choses et rapidement. Donc l'État fait ce qu'il peut. Ce que je peux reprocher en revanche, c'est que la planification du développement n'est pas objective. Elle obéit aux considérations politiques, c'est-à-dire telle région a donné plus de voix au président élu, donc forcément cette région doit être, n'est-ce pas, plus chouchoutée sur le plan des investissements. Telle autre a élu, n'est-ce pas, un opposant qui n'est donc pas arrivé au pouvoir, dont il y a une espèce de sanction tacite qui consiste à ne pas être très regardant, n'est-ce pas, quant aux problèmes qui concernent cette région. Donc, vous voyez, d'un côté, il y a la bonne volonté, mais une bonne volonté qui est parfois noyée dans des considérations politiques et politiciennes qui n'aide pas toujours l'ensemble de la population.
Comment l'Église se positionne-t-elle face à ces considérations politiques ?
L'Église joue son rôle de surveillant. Nous sommes là pour appeler, n'est-ce pas, à l'État, précisément que quand quelqu'un est élu président, il est élu président pour tout le monde, y compris pour ceux qui ne l'ont pas élu. Et donc nous rappelons cette vision qui doit embrasser le bien commun. Nous le rappelons, mais comme vous le savez, nous n'avons que notre voix pour le faire. Nous n'avons pas de moyens coercitifs. Donc nous rappelons, maintenant il faut que l'État, que le gouvernement, n'est-ce pas, nous entende et prenne en compte ce que nous disons. C'est des problématiques très complexes.
Vous avez l'impression d'être entendu parfois ?
Alors c'est une question difficile. Je ne peux pas répondre, donner un nom tout net. Il y a des cas où nous sommes entendus, soit parce qu'en face l'État voit le bien fondé de ce que nous disons, soit parce que l'État a peur d'une certaine pression, parce que derrière l'Église, l'Église est constituée de plusieurs fidèles. Donc il y a des positions telles que, ne serait-ce que par calcul, l'État, n'est-ce pas, souscrit. Mais en général, il a une ligne politique, hein, et il est très difficile de l'amener, je parle de l'État, à se démarquer par rapport à cette ligne. C'est très difficile. Ce que nous n'arrivons pas à arracher par nos prises de position, nous essayons, n'est-ce pas, de le gagner par la prière.